VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 24 novembre 2023. Avec vous, Eric Manelakidza, voici d'abord le sommaire. Guillaume Soro autorisé à rentrer en Côte d'Ivoire, mais la justice décidera de l'application de ses condamnations. Première visite à l'étranger du chef du régime militaire nigérien à Bamako et Ouagadougou. Au Burkina Faso, les autorités de transition lancent la construction d'une raffinerie d'or qui sera opérationnelle dans 11 mois. L'ONU appelle à la libération rapide des personnes enlevées lors de l'attaque d'un marché au Cameroun. Des artistes d'Afrique centrale réunis à Kinshasa pour le festival de la Rumba, une plateforme d'échange entre jeunes et aînés musiciens.
Le développement durable, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui sortent et des générations qui viennent. Et la main tendue de ceux qui...
Les paris sportifs au Nigeria, une addiction pour les jeunes sans emploi.
Pour être sincère avec vous, j'ai gagné beaucoup d'avantages avec Betnaja. Je peux dire avec fierté que j'ai acheté ma première parcelle de terrain avec l'argent que j'ai reçu de Betnaja.
Le Bénin, confronté à la disparition des terres côtières, investissement massif dans la protection et l'adaptation au changement climatique. La trêve à Gaza débute ce vendredi. Première libération d'otages et de prisonniers attendue. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le gouvernement ivoirien déclare que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, en exil depuis 4 ans, peut rentrer dans son pays, mais souligne que c'est la justice qui décidera de l'application de ses condamnations en Côte d'Ivoire. Yacouba Ouédraogo.
Guillaume Soro peut rentrer quand il veut, effectivement, le pays est ouvert, a affirmé Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, ajoutant que l'application des peines auxquelles l'ancien président de l'Assemblée nationale a été condamné sera traitée par l'administration judiciaire. Tous ceux qui voulaient rentrer sont rentrés et on les voit dans le pays, animés même parfois des réunions politiques, a ajouté Amadou Koulibaly, rappelant les moyens mis en place par le président Alassane Ouattara pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Guillaume Soro a quitté la Côte d'Ivoire en 2019 après s'être brouillé avec le président Alassane Ouattara. Il a été condamné en 2020 en son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire, puis à perpétuité un an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis son retour en Afrique, M. Soro a rencontré le général Abdourahmane Tchiani au Niger et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, deux militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État.
Le pouvoir militaire au Tchad a annoncé jeudi une amnistie générale, notamment pour les policiers et militaires, dans le cadre d'une manifestation réprimée dans un bain de sang en 2022. Avant son adoption, le projet d'amnistie avait soulevé un tollé dans les rangs de l'opposition et des ONG qui accusent le pouvoir de soustraire à la justice les policiers et militaires auteurs d'un massacre. Le chef du régime militaire au Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a rencontré hier jeudi ses homologues à la tête des régimes militaires maliens et burkinabé pour ses premières visites à l'international depuis le coup d'État à Niamey en juillet. Monsieur Tchiani est arrivé ce jeudi en début de soirée pour une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, selon le service de communication de la présidence du Burkina Faso. Les deux chefs d'État, le général Tchiani et le capitaine Ibrahim Traoré, ont échangé sur les problématiques communes aux deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme et les questions de développement socio-économique. Plus tôt, à Bamako, M. Tchiani a rencontré le colonel Assimi Goïta et remercié le Mali pour le soutien et la détermination des autorités et du peuple malien à cheminer auprès des autorités et du peuple nigérien, quels que soient les obstacles lors d'une déclaration à la presse. Les autorités de la transition Burkina Faso inaugurent la construction de la première raffinerie d'or à Ouagadougou, visant à valoriser la principale ressource minérale du pays, avec une mise en service prévue dans 11 mois. Dilidico.
La raffinerie aura une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or pur à 99,99%, soit environ 400 kg d'or par jour. Elle permettra la création de 100 emplois directs et 5000 emplois indirects. Les premiers lingots d'or, d'une teneur de 22 carats, sortiront de la raffinerie dans 11 mois, selon Ismaël Sibi, président-directeur général de Marena Gold, société cogérante de la raffinerie. Il n'est plus question pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour le raffiner. Nous le raffinerons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important, a déclaré le président de la transition, Ibrahim Traoré, au cours d'une cérémonie de lancement de la construction de la raffinerie. Au Burkina Faso, la production aurifère a reculé de plus de 13% en 2022 par rapport à 2021. Selon l'Initiative pour la transparence dans les industries minières extractives, le secteur minier contribue pour 14% aux recettes de l'État burkinabé. Pour le capitaine Traoré, à la tête du pays, beaucoup d'or sort du pays de façon frauduleuse et cela contribue à alimenter le terrorisme.
Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a inauguré jeudi une maison des Nations Unies dans la ville nouvelle de Diamandio, près de Dakar, un siège régional devant accueillir toutes les entités de l'ONU basées au Sénégal et dédiées à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La maison des Nations Unies, abritant notamment 1800 bureaux, est destinée à accueillir les 34 entités de l'ONU présentes actuellement au Sénégal et leurs quelques 2400 employés. L'ONU demande la libération rapide des personnes enlevées lors de l'attaque d'un marché dans l'ouest du Cameroun, attribuée par les autorités à des rebelles séparatistes anglophones. Au moins 10 civils sont concernés. Alexandrine Rologna.
Les responsables doivent rendre des comptes, a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Seif Magango, dans un commentaire envoyé aux journalistes. De présumés combattants séparatistes armés de la région anglophone du Nord-Ouest ont pris d'assaut le marché de la région francophone de Bamboutos, tirant au hasard et incendiant des commerces. Ils ont tué 9 personnes, enlevé au moins 10 civils et pillé des biens, a-t-il indiqué. Le Haut Commissariat appelle à la libération rapide de toutes les personnes enlevées et à des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur toutes les attaques contre des civils en vue de tenir pour responsables leurs auteurs. Le 6 novembre, 25 civils, dont des femmes et un enfant, avaient été tués à Egbekwao, dans la région du sud-ouest, dans un assaut attribué par Yaoundé aux séparatistes qui avaient exécuté certaines victimes et brûlé d'autres. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des groupes armés séparatistes aux forces de sécurité, chaque camp étant régulièrement accusé de crimes contre les civils par les ONG internationales et l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La trêve entre Israël et le Hamas entre en vigueur ce matin à 7h, 5h en temps universel. Un premier groupe de 13 otages sera libéré dans l'après-midi, a annoncé hier le Qatar. L'échange se fera avec des prisonniers palestiniens. Nathalie Barge.
13 femmes et enfants retenus dans la bande de Gaza seront libérés aux alentours de 16h ce vendredi, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari. Le Hamas a confirmé le début de la trêve à 7h avec un arrêt complet des activités militaires pendant 4 jours, période pendant laquelle 50 otages, des femmes et des enfants, seront libérés en contrepartie pour chacun de la libération de 3 prisonniers palestiniens, femmes et enfants. Israël a dit avoir reçu une première liste de noms d'otages. Des messages ont été envoyés à toutes les familles de personnes enlevées. Au moins 13 mères de famille sont otages à Gaza avec leurs 22 enfants. L'État hébreu avait précédemment diffusé une liste de 300 Palestiniens susceptibles d'être libérés, dont 33 femmes et 267 jeunes de moins de 19 ans. Parmi ces détenus, 49 sont membres du Hamas. La trêve permettra l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide, y compris le carburant, a souligné le Qatar. Malgré l'accord, Israël a affirmé que la guerre se poursuivra. « Nous continuerons jusqu'à la victoire », a affirmé jeudi le général Herzi Halevi, chef d'état-major israélien. « Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette », a averti de son côté le Hamas.
Le pape François a reçu séparément mercredi au Vatican des proches d'otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza et des Palestiniens ayant de la famille à Gaza, mettant aussi en garde contre une montagne de morts dans cette guerre. Ils souffrent tellement, j'ai entendu combien ils souffrent tous, c'est ce que produisent les guerres, a-t-il poursuivi. Prions pour la paix en Terre Sainte. Le pape a récemment souligné que tout être humain, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quel peuple et religion, est sacré, précieux aux yeux de Dieu et a le droit de vivre dans la paix. L'OMS s'inquiète d'une hausse des cas de maladies respiratoires en Chine et a demandé aux autorités chinoises des informations plus détaillées sur le sujet, appelant la population à mieux se protéger. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par John Lyndon.
Le gestionnaire de fonds américain Z Capital Group et le fonds souverain nigérian s'associent à travers un accord portant sur le lancement d'un fonds spécialisé dans les infrastructures en Afrique. Les deux entités entendent lever entre 1 et 2 milliards de dollars pour investir dans des secteurs tels que les soins de santé, les infrastructures numériques et sociales, les énergies renouvelables et l'agriculture. Au Kenya, les autorités vont privatiser 35 entreprises publiques et étudier l'ouverture du capital d'une centaine d'autres, a déclaré le président William Ruto. La dette publique du pays s'élève à plus de 66 milliards de dollars. Le Black Friday, journée incontournable de shopping aux États-Unis qui s'exporte de plus en plus, promet de battre des records cette année. Selon la Fédération nationale du commerce de détail, plus de 182 millions de dollars devraient faire des achats en boutique et sur Internet pendant la Cyber Week qui s'étend du jeudi de Thanksgiving, le 23 novembre, au lundi suivant le Cyber Monday. C'est près de 16 millions de plus qu'en 2022 et un record depuis le début de son suivi en 2017.
Et sans transition, on passe à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Début aujourd'hui des matchs de la phase de poule de la Ligue africaine des champions.
Oui, deux matchs au programme. Les Égyptiens de Pyramide FC reçoivent les Congolais du tout-puissant Mazembe dans la poule A. Dans le groupe D, les Algériens du CR Belouizdad accueillent les Tanzaniens de Young Africans. À suivre aussi ce week-end les rencontres de groupe de la Coupe CAF. Le stade malien de Bamako se déplace au Congo ce dimanche pour y affronter les Diables Rouges. Le coach malien Sekou Sek Dibako se félicite du retour de son club en phase de poule de cette Coupe de la Confédération.
Ça fait plaisir de se retrouver dans la phase de poule. Comme on l'avait dit, ça fait quelques années que le stade n'avait pas atteint ce niveau. Dieu merci, on est là dans la phase de poule. On représente dignement le stade malien. Et j'espère qu'on va représenter encore dignement le peuple malien qui en a tant besoin.
Sekou Sek Dibako, coach du stade malien de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Mondial des moins de 17 ans, le Sénégal saisit la FIFA après son élimination en huitième de finale.
Après un score de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire, les Lionceaux de la Teranga sont tombés face à la France. Au tir au but, 5 tirs réussis contre 3. La Fédération sénégalaise de football dénonce l'inéligibilité de Yanis Issoufou, joueur de l'équipe de France qui possède deux nationalités, nigérienne et française. Selon le courrier de la Fédération sénégalaise, Yanis Issoufou avait joué pour le Niger lors du tournoi de la zone UEFA B, qui est une compétition officielle qualificative à la CAN des moins de 17 ans Algérie 2023, elle-même qualificative à la Coupe du Monde Indonésie 2023. Pour rappel, le Mali et le Maroc ont arraché leur ticket pour les quarts et vont s'affronter ce samedi 25 novembre. Une certitude donc, l'Afrique aura un représentant en demi-finale.
Et avant de nous quitter, parlons de 9 ans de prison requis contre Dani Alves.
Le parquet espagnol a requis 9 ans de prison contre le footballeur brésilien accusé de viol par une jeune femme à Barcelone. Selon l'acte d'accusation consulté jeudi par l'AFP, le parquet réclame aussi que Dani Alves soit soumis à 10 ans de liberté sous contrôle judiciaire une fois sa peine purgée. Il demande aussi une indemnisation de la plaignante à hauteur de 150 000 euros et l'interdiction pour Alves de s'approcher d'elle durant 10 ans. L'ancien joueur du Barça et du PSG est en détention provisoire depuis le mois de janvier dans une prison proche de Barcelone. Il est accusé par cette jeune femme de l'avoir violé fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone. Le joueur de 40 ans conteste les faits.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des paris sportifs au Nigeria, une tentation addictive pour les jeunes sans emploi. BT9J, plateforme en ligne de paris sur les événements sportifs, attire des millions de jeunes nigérians depuis sa création en 2012 sous KC Gaming Networks. Détail avec ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Femi Samuel est un client passionné de Bet Nadja, le pari sportif en ligne et le jeu le plus joué au Nigeria ces dernières années. Depuis 3 ans, il joue régulièrement à ces jeux. Avec l'enjeu des matchs prévus du jour, il est arrivé tôt dans la boutique Bet Nadja dans la cité de Kwarimpa pour parier.
Pour être sincère avec vous, j'ai gagné beaucoup d'avantages avec Bet Nadja. Je peux dire avec fierté que j'ai acheté ma première parcelle de terrain avec l'argent que j'ai reçu de Bet Nadja. Comme vous le savez, le salaire n'est peut-être pas assez. Parfois même avant le 30 du mois, vous avez beaucoup de dépenses à faire et vous devez aussi payer des factures.
En tant que jeu de paris de football en ligne, Bet Nadja présente à ses clients des ligues de football réel, des noms d'équipes de football réel, notamment la Ligue nationale, la Premier League anglaise, la Serie A, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande, entre autres. Certains parieurs aiment le jeu en ligne pour se distraire.
J'aime jouer Bet Nadja parce que je joue pour mon plaisir, mais pour les autres, ils jouent, si je peux dire ainsi, dans le but de gagner quelque chose de raisonnable à la fin. Mais pour moi, je joue pour le plaisir, pour la compagnie d'autres personnes.
Certains jeunes Nigériens ont abandonné des emplois rémunérateurs pour se concentrer sur les paris sportifs avec l'espoir de gagner une somme importante un jour et de pouvoir changer leurs conditions de vie, surtout en cette période de crise économique. Mais comme dans un match de football réel, gagner n'est pas souvent chose facile.
Le jeu est un jeu de chance. Vous pouvez venir demain et gagner, et un autre jour, vous perdez. Donc, c'est un jeu de chance. Nous avançons progressivement et il n'y a aucun problème avec le jeu. Certaines personnes gagnent et d'autres perdent, c'est tout.
L'absence de réglementation pour contrôler l'industrie qui attire de nombreuses sociétés de paris en ligne au Nigeria est un autre problème. Certains y voient des aspects positifs.
Avec l'introduction de ces jeux de paris, vous découvrez que le taux de criminalité a beaucoup diminué dans la société. Ce n'est pas comme si les paris étaient quelque chose de meilleur, vous comprenez? Ce n'est pas non plus comme si c'était plus sacré que ce qu'ils faisaient avant. Mais si vous vérifiez, c'est en fait quelque chose qui a diminué les problèmes dans la société d'aujourd'hui.
Bet Nadja revendique environ 57,6 millions de visiteurs sur une base mensuelle sur son site en ligne et se présente comme la marque de paris sportif la plus reconnue, la plus fiable et la plus respectée au Nigeria pour des millions de jeunes sans emploi. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au fil des années, le Bénin a vu sa vulnérabilité augmenter face au changement climatique et à la montée du niveau de la mer, entraînant la disparition des terres côtières et impactant les habitants. Cette problématique répandue dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest pousse le Bénin à investir massivement dans des projets visant la protection côtière et l'adaptation au changement climatique. Blanche Sanou pour les détails.
Le long de sa côte atlantique, le gouvernement du Bénin a dépensé des millions de dollars pour protéger les communautés côtières de l'érosion marine. Mais Raymond Mekpe, pêcheur, ne peut que regarder les vagues ronger inlassablement son terrain. L'océan gagne lentement la bataille.
Avant, la plage n'était pas à cet endroit. C'est le manque de suivi et d'entretien qui a fait que la mer a gagné du terrain. De jour en jour, elle avance et engloutit les investissements de l'État et des particuliers.
Depuis
2002, le Bénin a perdu des kilomètres de côte, a déclaré le docteur Kossi Georges Degbe, océanographe.
Nous perdons environ 30 mètres par an. Vous voyez que c'est vraiment sérieux. Et que si rien ne fait, c'est que d'ici quelques années, nous allons perdre la route inter-État contre le Porto-Novo. Bon, on ne le souhaite pas. Mais il faut que nous fassions. Ce que je dis, c'est que quand nous mettons des ouvrages de protection à un endroit donné, c'est que nous déplaçons le phénomène.
L'État n'est pas resté inactif, selon Eskil Outiklissou, cadre de la Direction générale de l'environnement et du climat du Bénin. Il indique que près de 100 milliards de francs CFA ont été injectés dans la protection des côtes béninoises ces dernières années et cet investissement a permis de ralentir l'avancée de l'océan.
Ce projet est un projet d'envergure et qui a permis de protéger un segment transfrontalier. Et là, nous sommes en train d'attaquer segment par segment selon le plan d'investissement, le plan d'attaque que le gouvernement a élaboré. Nous sommes en train d'attaquer le problème segment par segment. Les segments encore vulnérables sont en étude et seront traités en temps opportun.
Le réchauffement climatique ayant une incidence sur le niveau des mers, l'érosion côtière sera l'un des sujets abordés par les dirigeants lorsqu'ils se réuniront à Dubaï en décembre dans le cadre de la COP28.
Voilà, de la rumba. Des musiciens d'Afrique centrale se sont réunis lors du festival de la rumba. Rumba Mokili Mobimba 2023 à Kinshasa, la capitale de la RDC. L'événement a favorisé les échanges entre jeunes artistes et figures emblématiques de son genre musical. Décryptage avec le reportage d'Obiobe Malenga à Kinshasa.
Rumba, la musique est congolaise. Des titres fétiches d'anciens musiciens de la rumba étaient à l'honneur lors de ces festivals organisés au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. Jean Goubal Kalala a chanté avec plusieurs des plus anciens musiciens de la rumba de la RDC. Il dit que sa participation à ces festivals est de préparer les jeunes à prendre la relève.
Les gens naissent, grandissent, se forment et puis tendent la main aux générations futures. Le développement durable, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui sortent et des générations qui viennent. Et la main tendue de ceux qui sortent vers ceux qui viennent pour les former aussi, pour qu'ils viennent remplacer.
Le festival Rumba a également réuni des chanteurs du Congo-Brazzaville comme la musicienne Faila Bwendi, qui promet de maintenir le flambeau de la rumba allumée.
Tant que biso tozali, ngana zali, ma collègue Moussou Bazali, toza wana toujours pour nous défendre rumba. Yango tozali ko continuer toujours ko sala rumba ko tombola toujours que sina biso po ebungate po tozana besoin nango.
Des centaines de personnes ont assisté à ce festival et certains n'ont pas caché leur satisfaction.
Ce qui m'a beaucoup plus marqué, en tout cas, c'est vraiment par rapport à la différence entre la mélodie de nos aînés, de la rumba, qui est vraiment une mélodie vraiment très douce et on peut vraiment capter de l'essence dedans, on peut tirer l'essence. Ça nous instruit, en fait, à comparer avec le mélodie de jeunes d'aujourd'hui qui ne sont même pas éducatifs, non plus instructifs, on n'arrive pas à tirer les sons dedans.
Mmh. La musique rumba existe depuis des décennies et est célèbre en Afrique et dans le monde. L'UNESCO l'a ajouté à la liste des patrimoines immatériels culturels depuis 2021. De Malinga pour VOA Afrique, Kinshasa.
Merci bien Yombe pour ce morceau de la rumba. Le cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas qui devait commencer jeudi a été reporté au moins jusqu'à ce vendredi alors qu'un premier groupe de 13 otages, femmes et enfants, doit être libéré à 14h temps universel ce même jour de vendredi. Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la libération de 50 otages israéliens. Tous des femmes et des enfants en échange d'une pause de 4 jours dans les combats et de la libération de quelques 150 prisonniers palestiniens. Israël affirme qu'après le cessez-le-feu, les combats reprendront à Gaza. Linda Gradstein en dit plus dans ce reportage réalisé à Jérusalem et repris par Gabi Dorsil.
Après des semaines d'efforts de la part du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu de 4 jours en échange de la libération de 50 otages israéliens, tous des femmes et des enfants. Israël a également accepté de libérer 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs. Le Hamas remettra les otages par étapes à la Croix-Rouge qui les transférera aux soldats israéliens. Israël affirme qu'ils seront conduits dans des centres médicaux isolés à l'intérieur d'Israël pour retrouver leur famille et subir des examens médicaux. Chaque jour, 12 ou 13 otages seront libérés, dont le premier groupe, vendredi à 14h TU. Le cabinet israélien a approuvé l'accord lors d'une session nocturne mardi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la nation est confrontée à une décision difficile.
Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir, mais c'est une décision juste. L'ensemble des services de sécurité la soutiennent pleinement.
Israël a publié une liste de 300 prisonniers palestiniens, femmes ou jeunes âgés de moins de 19 ans, dont la moitié sera libérée en échange des 50 otages israéliens. D'autres pourraient être libérés si le cessez-le-feu est prolongé. L'une des personnes figurant sur la liste est Ubay Abu Maria, 18 ans, dont le père Youssef a lui-même été emprisonné par Israël à 5 reprises. Youssef dit que son fils a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans.
Ubay a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans et il est maintenant blessé ayant perdu le contrôle des 70% de son bras. Je suis très heureux qu'Ubay sera bientôt dans mes bras.
La guerre a commencé après que les combattants du Hamas, groupe désigné comme terroriste par les États-Unis, ont pénétré en Israël le 7 octobre et tué quelques 1200 personnes et enlevant 240 autres, pour la plupart des civils. Israël a répondu par des frappes aériennes massives et une invasion terrestre qui a tué déjà au moins 14 000 personnes à Gaza, dont plus des 2/3 sont des femmes et des enfants, selon le Hamas. Pendant les 4 jours de trêve, Israël autorisera l'entrée à Gaza de grandes quantités d'aide humanitaire, y compris carburant. Mais les responsables israéliens affirment qu'après la fin du cessez-le-feu, Israël reprendra son offensive contre le Hamas. Le général de brigade Yaakov Amidror est un ancien chef du Conseil national de sécurité d'Israël.
Contrairement à de nombreux Israéliens, je pense qu'il est très clair. Pour les décideurs, ils ne peuvent pas s'arrêter. Le sentiment israélien ne les laissera pas s'arrêter. S'ils arrêtent la guerre après les 4, 5, 6 jours du cessez-le-feu, ce sera la fin de ce gouvernement.
Pour les familles des otages en Israël, c'est une période de tension insupportable où elles attendent de savoir si leurs proches seront libérés.
Le monde d'aujourd'hui avec Eric Manilakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Michel Claire-Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine. Au revoir.